Les colloques du Collège de France.
Le dernier exposé donc de ce colloque, de ces deux jours de colloque, va être donné par Carina Prunkel, qui est professeure assistante en éthique de technologie à l'Université d'Utrecht et également chercheuse associée à l'Université d'Oxford. Donc ses principales thématiques, c'est l'autonomie et l'éthique des prises de décision automatisées, et elle s'intéresse également plus généralement à la gouvernance de l'intelligence artificielle. Donc elle nous parlera de l'IA en tant que bureaucratie. Merci.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter mes travaux aujourd'hui. Ce que je vais vous présenter, c'est encore un travail en cours. Cela dit, je suis vraiment très impatiente d'en discuter avec vous par la suite. Bon, ce travail à moi est animé par une question assez fondamentale. C'est à mesure que les technologies d'IA ouvrent des nouvelles possibilités, quelles décisions devons-nous automatiser et lesquelles devons-nous laisser à l'humain? Permettez-moi de commencer par un exemple concret. Imaginez que vous soyez en procès. Vous pourriez supposer que votre condamnation dépendra des faits, de la force des preuves, des lois applicables et des circonstances de votre affaire. Mais il se trouve qu'un autre facteur joue un rôle surprenant, le juge qui vous est attribué. Hop, est-ce que ça marche? Oui. Dans leur livre Noise, Kahneman, Sunstein et Seboni décrivent une étude impliquant 208 juges. Chaque juge a reçu les mêmes 16 dossiers et devrait commander une peine pour chacun. Sur ce graphique, vous pourriez voir les juges sur l'axe vertical et les affaires sur l'axe horizontal. Est-ce qu'il y a un bim? Oui, c'est ici les juges et ici ce sont les cases. Bon, le résultat, il y a vraiment une variation massive. Pour un même dossier, un juge pouvait recommander une peine deux fois. Oh, ah oui, vous voyez déjà. Pourrait une peine deux fois plus lourde qu'un autre. Certains juges étaient systématiquement sévères et des autres systématiquement indulgents. Par exemple, le juge 2 a donné en moyenne 8,4 ans de prison, c'est celui-là. Et le juge 3 n'a donné que 5 ans. Bon, pour exactement les mêmes affaires. Votre peine ne dépend donc pas uniquement de ce que vous avez fait, elle dépend aussi de qui vous juge ce jour-là, et peut-être même de son humeur, de l'heure de la journée ou de son niveau de faim. Cette variation dans les jugements n'est pas nouvelle, mais l'ampleur de l'incohérence révélée ici est quand même assez frappante et préoccupante. Elle remet en cause notre sens de l'équité et menace la confiance dans le système judiciaire. C'est précisément pour cette raison que Kahneman, Sunstein et Seboni soutiennent que nous devrions confier certaines décisions à des algorithmes. Selon eux, les algorithmes permettent d'harmoniser les jugements, de réduire les biais et d'éviter le bruit de la subjectivité humaine. Bon, je reviendrai à cet exemple plus tard, mais je voudrais d'abord attirer votre attention sur une chose. Ce que nous comparons ici, c'est le jugement humain face au jugement algorithmique. Autrement dit, la question posée est: peut-on remplacer l'humain faillible par un meilleur outil, c'est-à-dire un algorithme? Kahneman, Sunstein et Seboni répondent par l'affirmative, mais d'autres, bien sûr, comme Spalding dans l'Oxford Handbooks of Ethics of AI, ils mettent en garde contre cette substitution. Ils soulignent notamment les enjeux liés à la légitimité, à la responsabilité et à la capacité morale de jugement, des qualités que, selon eux, seuls les humains peuvent y incarner. Cela signifie concrètement que le débat actuel autour de la prise de décision algorithmique repose largement sur une comparaison entre la qualité, le processus ou le résultat d'une décision humaine et ceux d'une décision algorithmique. Or, Dans cette conférence, je voudrais défendre l'idée que ce cadre d'analyse qui consiste à voir dans l'IA un substitut du jugement humain est au mieux peu utile et au pire trompeur. C'est un peu provocatif. Ce à quoi il faudrait comparer la prise de décision algorithme, ce n'est pas à la décision humaine en tant que telle, mais à la prise de décision bureaucratique. Et c'est là le cœur de mon propos aujourd'hui. Arrêtons donc un instant de nous demander si les algorithmes sont meilleurs ou pires que les humains pour prendre des décisions et concentrons-nous plutôt sur le type de structure des décisions. La structure décisionnelle qu'ils incarnent. La comparaison adéquate, selon moi, n'est pas entre le IA et le humain, mais entre le IA et la bureaucratie, ou les décisions bureaucratiques plutôt. Pourquoi est-ce que ce cadrage plus utile? Bon, premièrement, parce qu'il existe une ressemblance fonctionnelle frappante entre la prise de décision algorithmique et la prise de décision bureaucratique. Les systèmes d'IA ne prennent pas des décisions comme les personnes, ils prennent des décisions qui ressemblent étroitement à celles des bureaucraties, des décisions fondées sur des règles standardisées, impersonnelles. Deuxièmement, et c'est crucial, ce qui est remplacé ici n'est pas simplement un individu, mais toute une infrastructure de prise de décision. Ce que nous automatisons, ce n'est pas seulement le jugement, mais c'est une nouvelle manière d'organiser la manière dont les décisions sont prises, justifiées et contrôlées. Et ce changement de perspective est important, car il modifie les questions que nous posons et surtout, il nous permet de mobiliser un corpus existant de réflexion. La littérature sur la bureaucratie. Bon nombre des questions actuellement posées à propos des systèmes de l'IA, l'équité, opacité, standardisation, discrétion, légitimité, sont des questions anciennes dans le contexte de la gouvernance bureaucratique. En reconnaissant les parallèles structurels, nous pouvons nous appuyer sur ces savoirs, identifier les ressemblances et les différences et ainsi mieux cerner les problèmes et les solutions qui posent les systèmes algorithmiques. Bon, enfin, ce cadrage permet aussi de démystifier la prise de décision algorithmique en la replaçant dans des formes institutionnelles familières et bien étudiées, plutôt que les traiter comme un phénomène totalement inédit et exceptionnel. Alors, quels sont exactement ces parallèles structurels? Si nous prenons au sérieux la bureaucratie, et non seulement comme forme administrative, mais comme une mode de justification, nous constatons que nombre de ces traits essentiels se retrouvent aussi dans la décision algorithmique. Ces traits influencent la manière dont les décisions sont encadrées, exécutées, la place de la discrétion et la manière dont l'autorité est exercée. Voici, vous voyez un bref aperçu, la prise de décision bureaucratique et algorithmique repose sur la catégorisation et la quantification. Elle est régie par des règles, elle limite la discrétion, elle vise la cohérence et l'impartialité, elle est structurée et hiérarchique, elle manque souvent de responsabilités personnelles identifiables, pas toujours, mais parfois. Ces convergences ne sont évidemment pas accidentelles. La décision algorithmique et la décision bureaucratique obéissent à une logique commune. Elles privilégient les règles sur l'interprétation, les procédures sur le contexte, la cohérence sur la réactivité. Et chacun de ces caractéristiques apporte à la fois des promesses et aussi des problèmes. Bon, permettez-moi de passer brièvement en revue ces traits structurels. Bon, elles reposent toutes deux sur la catégorisation et la quantification en réduisant des réalités complexes à des entrées lisibles. Elles sont fondées sur des règles, les décisions suivent des procédures ou modèles prédéfinis. Elles ont tendance à limiter la discrétion ou à la déplacer ailleurs dans le système. Elles aspirent à la cohérence et à l'impartialité, parfois au détriment de la flexibilité. Elles sont structurées et hiérarchisées, que ce soit par les chaînes organisationnellement ou des pipelines de données, et elles manquent souvent de responsabilités personnelles explicites. Les décisions sont prises par le système, non par l'individu. Je reviendrai plus en détail sur certaines d'entre elles, mais ici déjà, on voit comment ce cadrage nous aide à dépasser la question de savoir si les algorithmes prennent les bonnes décisions pour mieux comprendre quel type de prise de décision ils incarnent réellement. Bon, concentrons-nous maintenant sur trois caractéristiques centrales et peut-être aussi les plus intéressantes de la décision bureaucratique et algorithmique. Le fait qu'elle est régie par des règles, qu'elle limite la discrétion et qu'elle vise la cohérence et l'impartialité. Ok, commençons. Je veux aussi dire que tout ça, c'est relié. Ce n'est pas des catégories exclusives, mais en fait, on va voir qu'il y a assez beaucoup de commonalités entre les catégories aussi. Bon, commencer par l'idée des décisions fondées sur les règles. La décision bureaucratique est fondamentalement gouvernée par des règles. Cela signifie qu'une fois que la règle est établie, elle doit être suivie. Cette structuration par les règles est profondément liée aux idéaux démocratiques. C'est la transparence, égalité, responsabilité et la possibilité de recours. Dans son ouvrage très influente, Trust in Numbers, l'historien Theodore Porter soutient que l'essor de la prise de décision régie par des règles dans les institutions publiques n'était pas seulement une évolution technique, mais une réponse à des pressions politiques. À mesure que les idées démocratiques se répandaient, les gouvernements ont dû justifier publiquement leurs actions et appliquer des standards de manière uniforme. Bon, les règles et la quantification leur offraient un moyen d'y parvenir. Prenons l'exemple de la fonction publique britannique. Avant le 19e siècle, la plupart des postes dans le service public en Grande-Bretagne étaient attribués par favoritisme et par des relations personnelles. Mais ça a commencé à changer en 1854 avec le rapport Northcote Trevelyan qui a préconisé l'introduction de concours d'entrée standardisés et compétitifs. L'idée était très simple, démontrer que l'accès aux services publics reposait sur le mérite, non sur les liens sociaux ou politiques. Dans ce contexte, les règles servent donc de garde-fou institutionnel. Elles protègent contre les décisions arbitraires ou partiales. Et par partiales ou arbitraires, j'entends les décisions basées sur des considérations qui ne sont pas reconnues comme pertinentes au regard du cas en question. Les règles servent à limiter l'arbitraire en restreignant l'espace de la discrétion individuelle. Et c'est aussi ainsi qu'elles promeuvent la cohérence. Les règles présentent également un autre avantage majeur. Elles améliorent l'efficacité. Prenons le traitement des déclarations fiscales. Si chaque dossier devait être examiné individuellement par un agent, par exemple, en tenant compte non seulement des chiffres, mais aussi de la situation, des intentions et du contexte social du contribuable, le système s'effondrerait. Mais lorsqu'on s'appuie sur des seuils et en catégories prédéfinies, tranches de revenus, statut fiscal, le traitement devient routinier, scalable et efficace. C'est là la force des règles aussi. Elles transforment un jugement humain complexe en une tâche procédurale, réalisable à grande échelle. Or, les algorithmes sont par définition des systèmes régis par des règles. Le Oxford English Dictionary définit un algorithme comme une procédure ou un ensemble de règles utilisées dans les calculs et la résolution des problèmes. Et cela vaut que l'on parle d'un système codé à la main ou d'un modèle d'apprentissage automatique. Dans le machine learning, les règles ne sont pas définies à l'avance par un programmeur, mais ils sont inférées à partir des données pendant l'entraînement. Mais une fois le modèle est entraîné, il suit un ensemble fixe de paramètres internes qui déterminent sa réponse à des nouvelles entrées. Bon, l'IA génératif comme ChatGPT ne fait pas l'exception, mais si elle produit des sorties probabilistes, le processus de génération reste gouverné par une structure interne apprise. Cela dit, le caractère probabiliste de ces sorties affaiblit certaines des vertus que je viens de mentionner, et en particulier la cohérence et la répétabilité. Bon, je laisserai donc à côté l'IA générative pour l'instant et je me concentre sur les systèmes plus nettement régis par des règles au sens classique. Comme les bureaucraties, les algorithmes sont souvent loués pour leur impartialité et leur cohérence, ce que l'on appelle parfois peut-être un peu trop rapidement leur objectivité. L'idée est que si deux personnes sont également représentées dans les données, elles recevront le même traitement. Ou autrement dit, les mêmes entrées devraient produire les mêmes sorties. Jusqu'à présent, je me suis concentrée sur les avantages de la prise de décision fondée sur des règles, mais bien sûr, elle présente aussi des limites et des écueils. On peut en distinguer deux grandes catégories. L'application tient à l'application des algorithmes et des règles, et l'autre à leur contenu. Bon, commencer par l'application. Pour qu'un système fondé sur des règles soit équitable, il faut que celles-ci soient appliquées de manière cohérente. Sinon, toute la justification de l'introduction de règles promouvoir l'équité, la prévisibilité et l'impartialité s'effondrent. Prenons l'exemple de la corruption. Dans certains systèmes politiques, le code de la route s'applique en théorie à tout le monde, mais en pratique seulement à ceux qui ne disposent pas de connexion politique. Lorsque l'application des règles devient sélective, leur légitimité, bien sûr, s'effondre. On n'a plus alors un ordre fondé sur des règles, mais une façade, une forme institutionnelle qui dissimule un système de traitement particulier et de discrétion informelle. C'est une caractéristique bien connue des bureaucraties dysfonctionnelles. Les règles existent, mais elles masquent des décisions prises en réalité. D'une façon arbitraire ou à des fins privées. Et cela ne concerne pas uniquement les systèmes corrompus. Même dans les bureaucraties qui fonctionnent bien, les agents peuvent appliquer les règles de manière incohérente. Ils peuvent être fatigués, distraits ou simplement biaisés. Quiconque a déjà suivi une recette connaît cette expérience un peu, et il arrive qu'on oublie un ingrédient, qu'on lise mal une étape ou qu'on en saute une. Cela n'arrive pas à un algorithme, bien sûr. Lorsqu'il s'agit d'appliquer les règles d'une manière constante, les algorithmes nous surpassent. Ils n'oublient pas, ne se laissent pas distraire et ils n'improvisent pas. Mais cela nous amène à la seconde question, celle du contenu. Même si les règles sont appliquées parfaitement, la véritable question reste : que disent-elles ? Sont-elles justes ? Sont-elles pertinentes ? Reflètent-elles ce qui compte réellement dans un cas donné ? Revenons à la réforme Northcoin-Trevelyan. Oui, elle a réduit le rôle du favoritisme dans le recrutement de fonctionnaires. Mais elle n'a pas nécessairement garanti la compétence. Le concours d'entrée qui fut mis en place testait principalement ce qu'on considérait alors comme une éducation classique, la maîtrise du latin, du grec et de la géométrie. Ce sont les matières enseignées dans les écoles d'élite en Angleterre, comme Oxford et Cambridge. Et ainsi, même si le concours reposait sur un critère objectif et formel, il a de fait maintenu les emplois publics au sein de la même classe sociale. Deux conclusions s'imposent ici. D'abord, les règles n'évaluent pas ce qui était le plus pertinent pour le travail administratif réel. Et ensuite, elles excluent la grande majorité des citoyens qui n'avaient pas reçu ce type d'éducation. Le concours a remplacé une forme d'exclusion, le favoritisme, par une autre, le diplôme fondé sur un accès élitiste. Et on retrouve des problèmes similaires dans la prise de décision algorithmique. Les règles peuvent être appliquées de manière impartiale, mais cela ne signifie pas que leur état et effet soient équitables. Bon, un seul exemple parmi tant d'autres. Aux États-Unis, un algorithme de santé a été utilisé pour allouer les soins supplémentaires aux patients atteints de pathologies complexes. Les concepteurs du système devaient trouver un moyen de mesurer la gravité de l'état de santé d'une personne. Mais comme la maladie est difficile à quantifier directement, ils ont utilisé le coût total des soins de santé comme indicateur. L'idée était que les patients les plus malades dépensent plus pour se soigner, donc que le coût total reflèterait les besoins médicaux des patients. Mais en pratique, cet indicateur a introduit un biais systématique. En moyenne, les patients noirs dépensent moins en soins de santé que les patients blancs, même lorsqu'ils sont aussi malades. Et ça, cela s'explique par des inégalités structurelles dans l'accès aux soins et les habitudes de recours au système de santé aux États-Unis. Le résultat, l'algorithme attribuait systématiquement plus de réseaux aux patients blancs, même lorsque les patients noirs tout aussi malades auraient dû en bénéficier aussi. Ce n'était pas un échec d'application, l'algorithme faisait exactement ce qu'on lui avait demandé. Mais le problème venait de la règle elle-même, du choix de l'indicateur. Bon, quelles leçons en tirer ? Les systèmes fondés sur des règles, qu'ils soient bureaucratiques ou algorithmiques, ne valent que par la qualité des règles qu'ils appliquent. Il ne suffit pas de s'assurer que les règles soient appliquées avec constance, mais il faut encore se demander si elles sont justes, pertinentes et si elles remplissent effectivement la fonction attendue. Comme l'ont souligné Crail et Hellman dans un papier, traiter les cas similaires de manière similaire ne signifie pas que s'ils seulement appliquer la même règle à chaque fois. Cela implique aussi de reconnaître en quoi les cas sont similaires de manière pertinente. Venons-en maintenant au point suivant. L'une des conséquences de la prise de décision fondée sur des règles est la limitation du pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire désigne de manière générale un espace où l'on peut choisir entre plusieurs actions autorisées sur la base de son propre jugement. Il joue un rôle dans des contextes où les règles ou les normes ne déterminent pas complètement la conduite à adopter, ou lorsque ce pouvoir est explicitement délégué à des professionnels. Par exemple, les travailleurs sociaux doivent souvent évaluer si l'environnement familial d'un enfant justifie une intervention supplémentaire. Même en présence des standards et des protocoles, la décision repose souvent sur le jugement du travailleur social, son expérience et son interprétation de la situation. Par construction, la prise de décision bureaucratique restreint l'espace laissé au jugement individuel. Ce n'est pas un effet secondaire, mais c'est l'un de ses objectifs. Mais cela ne signifie pas que le jugement soit entièrement supprimé. Même dans les environnements hautement réglés, le pouvoir discrétionnaire se manifeste sous différentes formes et à différents niveaux. Une distinction utile est-elle entre discrétion formelle et discrétion informelle? La discrétion formelle survit lorsqu'une règle autorise expliquement un choix entre plusieurs options. Et ainsi, un juge peut être habilité à condamner un voleur à peine et à une peine comprise entre 1 an et 5 ans. Il y a une flexibilité là. Dans cette fourchette, la décision relève de son jugement à elle ou à lui. La discrétion informelle, à l'inverse, apparaît lorsque les règles sont vagues ou sont incomplètes. Dans ce cas-là, il laisse place à l'interprétation. C'est le cas, par exemple, d'un agent des services sociaux qui doit décider si la situation d'un demandeur est exceptionnelle, une notion non définie dans la réglementation. Dans les deux cas, la discrétion toujours existe, mais sa forme et son étendue varient. Les agents de terrain, comme les travailleurs sociaux ou les enseignants, disposent souvent d'une grande latitude dans l'interprétation et l'application des règles, tandis que les agents plus éloignés du terrain, comme les gestionnaires administratifs, opèrent généralement dans le cadre un peu plus étroit. Lorsque l'on se tourne vers les systèmes d'IA, on observe un rétrécissement d'analogue du pouvoir discrétionnaire à l'échelle de la première ligne. Une étude menée par exemple par Eurofound en 2021 sur la numérisation du travail a révélé que le domaine le plus affecté par les nouvelles technologies au workplace, au travail, c'est les compétences et de la discrétion. Dans les chaînes de montage automatisées, par exemple, les systèmes numériques déterminent de plus en plus le rythme et la séquence des tâches. Les travailleurs ne sont plus censés décider de la priorisation ou de l'organisation de leur travail, c'est maintenant la technologie qui s'en charge. Comme le souligne le rapport, cette évolution conduit à un environnement plus contrôlé. À première vue, on pourrait penser que la discrétion est tout simplement éliminée par l'automatisation et la logique procédurale. Mais ce n'est pas tout à fait exact. La discrétion n'est vraiment pas supprimée, mais elle est réconfigurée et redistribuée. Même dans les systèmes très procéduraux, le pouvoir discrétionnaire tend à se déplacer vers les extrémités de la chaîne décisionnelle, vers ceux qui conçoivent les règles et vers ceux qui décident de leur application. Et dans les décisions bureaucratiques, une large part du pouvoir discrétionnaire est déplacée vers le haut, vers les décideurs politiques et les fonctionnaires responsables de l'élaboration des normes et des procédures. Dans les systèmes pilotés par l'IA, on retrouve un phénomène très similaire. Même si le système automatise la décision finale, de nombreux choix discrétionnaires sont intégrés en amont dans la phase de conception. Les ingénieurs et les data scientists doivent choisir quelles données inclure, comment définir la fonction, objectif, quels critères optimiser, quels indicateurs utiliser. Ce ne sont pas des décisions neutres ou impartiales ou mécaniques. Ce sont les exercices de jugement qui impliquent souvent des compromis et des arbitrages normatifs. Ces formes de discrétion sont moins visibles, mais tout aussi décisives. On peut même appliquer la distinction entre la discrétion formelle et informelle au système de l'IA. Certains algorithmes permettent expliquement une gamme de résultats ou exigent une intervention humaine, ce qui correspond à une forme de discrétion formelle. Par exemple, un modèle prédictif de risque peut proposer plusieurs scores de risque possibles et un évaluateur humain choisit s'il convient d'agir ou non. La discrétion informelle, quant à elle, apparaît lorsque les règles algorithmes sont ambiguës ou lorsque le système est utilisé dans des contextes qui débordent son cadre initial. Par exemple, un algorithme de modération de contenu entraîne à détecter les discours haineux peut produire des résultats à la frontière de l'acceptable, laissant place à l'interprétation par un modérateur humain. Et même lorsqu'un système semble déterministe, l'ambiguïté ou l'incomplétude de la règle exige encore une forme d'interprétation humaine. La seconde point d'entrée de la discrétion se situe au moment de l'application des règles. Même si la règle est claire, son application à des cas particuliers demande souvent le jugement. Une règle qui accorde l'accès gratuit à une piscine municipale, par exemple, à toute personne de plus de, qui ont plus de 65 ans, ça semble simple, mais quelqu'un doit encore décider s'il faut accepter une pièce d'identité périmée ou vérifier l'authenticité d'un autre document d'identité. Et même ici, le jugement fait retour. Selon le degré d'automatisation du processus, les systèmes de IA peuvent réduire ou éliminer ce type de discrétion. Un système de crédit entièrement automatisé, par exemple, peut empêcher toute évaluation humaine des dossiers limites. Mais dans de nombreux domaines sensibles, la supervision humaine est légalement exigée ou pratiquement indispensable. Et là où il y a supervision humaine, il y a généralement aussi une certaine forme de discrétion, à condition, bien sûr, que cette supervision soit effective. Ce qui importe dans le débat sur la discrétion et l'automatisation, ce n'est donc pas seulement de savoir si la discrétion est présente, mais où et où elle se suit, qui l'exerce et dans lesquelles conditions elle peut être rendue visible et tenue pour les responsables. Ok. Permettez-moi maintenant d'aborder la dernière similarité structurelle entre la prise de décision bureaucratique et la prise de décision par l'IA. Ou de moins la dernière dont je parlerai aujourd'hui. Il s'agit d'une conséquence supplémentaire et là encore d'une justification centrale du recours aux règles. Les règles favorisent la cohérence et, dans un prolongement direct, l'impartialité. Il ne s'agit pas simplement de vertus techniques, mais de vertus normatives. La cohérence renvoie à l'idéal aristotélien de traiter les cas semblables de manière semblable. L'impartialité, elle, renvoie à l'équité. Les décisions ne doivent pas être influencées par les préférences personnelles, un statut social ou des impressions subjectives. Les règles formalisées limitent la marge de manœuvre discrétionnaire et assurent une stabilité des décisions dans le temps, dans l'espace et entre agents. Autrement dit, les systèmes bureaucratiques comme les systèmes d'IA peuvent garantir au moins deux types de cohérence. Une, c'est une cohérence temporelle et deux, c'est une cohérence interagent. La cohérence temporelle signifie qu'une décision prise aujourd'hui devrait être indiquée à celle prise demain, à condition que tous les faits pertinents restent pas changés. Si ma demande d'allocation chômage est acceptée aujourd'hui, elle devrait l'être aussi demain. Sauf bien sûr si la règle prévoit une dimension temporelle spécifique. La cohérence interagent signifie que peu importe qui applique la règle, si l'entrée est la même, la sortie devrait être la même aussi. Et revenez à l'exemple évoqué au début de cet exposé, c'est les écarts de les peines prononcées par les juges. Ce que nous observons ici, c'est une rupture de la cohérence interagent. Un juge donne 8 ans, un autre 5 pour la même affaire. Cela affaiblit l'équité du processus décisionnel, non seulement en apparence, mais aussi en substance. Dans les systèmes bureaucratiques, cette forme de cohérence se limite généralement à la juridiction concernée. Une demande d'allocation chômage peut être acceptée en Allemagne, mais refusée en Espagne. Non pas en raison d'une application incohérente, mais parce que les règles sous-jacentes diffèrent. Dans les systèmes de l'IA, cela vraiment dépend. Mais la cohérence peut s'entendre bien au-delà, surtout lorsque plusieurs institutions s'appuient sur le même modèle. Le même benchmark, ou même le même jeu de données d'entraînement. Certains chercheurs ont mis en garde contre l'émergence d'une monoculture de l'IA qui pourrait renforcer ce type d'uniformité, parfois au détriment de l'adoption locale ou d'un examen critique. La cohérence et l'impartialité sont toutes deux des idiots procédaux. Elles visent à promouvoir l'équité en éliminant la subjectivité individuelle. Dans les systèmes bureaucratiques, cela signifie que les décideurs suivent des procédures formelles plutôt que de se fonder sur des impressions personnelles ou des relations sociales. Dans les systèmes d'IA, un mécanisme similaire est à l'œuvre. L'abstraction des données et l'application uniforme du modèle à tous les inputs. Mais comme toujours, la seule présence d'une cohérence ou d'une impartialité formelle ne garantit pas l'équité sur le fond. Bon, j'ai combien de temps il me reste?
Officiellement, un quart d'heure.
D'accord. Bon, je vais me dépêcher parce que j'aimerais bien avoir une discussion. D'accord. Bon, je vais continuer. Venons-en maintenant à les raisons pour lesquelles ce recadrage compte au-delà de sa seule précision descriptive. Ce qui est en jeu dans la comparaison entre l'IA et la prise de décision bureaucratique, ce n'est pas simplement une meilleure analogie, mais c'est la possibilité de réorienter les questions normatives que nous posons. Nous devrons nous demander si un système fondé sur des règles, qu'il soit bureaucratique ou algorithmique, peut produire des décisions légitimes, responsables et justes. Et au-delà, ce qui rend ces décisions légitimes, responsables et justes. Ce changement, je pense, est essentiel d'abord pour repenser la notion de la légitimité dans les systèmes démocratiques. Par exemple, la légitimité ne repose pas uniquement sur les résultats, elle dépend aussi de la manière dont les décisions sont prises, qui décide, comment les règles sont établies et si les citoyens peuvent comprendre et contester ces décisions. Les bureaucraties ont été conçues en partie pour rendre la gouvernance plus fondée sur des règles, et donc plus légitime. Moins sujette aux caprices personnels ou aux intérêts opaques. La prise de décision algorithme hérite de cette promesse, neutralité, cohérence, dépersonnalisation, mais contrairement au système bureaucratique ancré dans les structures démocratiques, les systèmes d'IA échappent souvent à l'examen public. Il existe étonnamment peu de débats sur les choix qu'ils présentent à leur conception, et encore moins sur ce qui les légitime. Si les décisions sont prises par des systèmes dont le fonctionnement est opaque, dont les critères ne peuvent être contestés ou dont l'autorité est incertaine, alors leur forme procédurale masque simplement un déficit de légitimité. Cela nous conduit à la question de la responsabilité. Les systèmes bureaucratiques sont du moins en principe intégrés dans une structure de gouvernance. Il existe des chaînes de responsabilité, des mécanismes de supervision et des voies et des recours publics. Mais à mesure que les systèmes d'IA sont intégrés au processus décisionnel, la responsabilité devient plus floue. Qui est responsable lorsque les choses tournent mal? Le concepteur du système, le fournisseur de données? C'est un vieil débat maintenant. Ces questions ne sont pas théoriques. Elles concernent directement la manière dont le pouvoir est exercé et comment il peut être remis à cause. La responsabilité ne consiste pas seulement à désigner un responsable, mais elle suppose que les décisions puissent être retracées, expliquées et, si nécessaire, corrigées et annulées. Et puis, il y a la promesse de l'échelle. Les bureaucraties sont permis de gouverner des populations nombreuses en transformant le jugement en procédure. Les systèmes de l'IA promettent la même chose, mais plus rapidement et à la plus grande échelle. Mais l'échelle amplifie aussi les risques. Une règle ou un modèle qui traite effacement des milliers de cas peut, si elle est défaillant, produire des effets nocifs tout aussi efficacement. Cela est particulièrement préoccupant lorsque les décisions reposent sur des indicateurs ou des proxies qui n'ont jamais fait l'objet d'un débat plus public ou d'une validation démocratique. Et une fois que ces systèmes sont intégrés au service public, leurs effets deviennent systématiques et non plus marginaux. C'est pourquoi ce changement de perspective du jugement individuel à la gouvernance bureaucratique n'est pas simplement une préférence conceptuelle. Il nous aide à repérer les zones où il faut creuser, à mobiliser les analyses déjà formulées par les historiens, les sociologues ou les philosophes. Il nous aide vraiment à comprendre ce qui est en jeu avec l'IA. Ce n'est pas seulement de savoir qui décide, mais comment la décision est structurée, institutionnalisée et légitimée. Il nous permet de tirer parmi de l'histoire de la gouvernance administrative et de ses réussites et de ses échecs et des critiques qu'elle a suscitées. Et il nous permet de poser de meilleures questions, non seulement sur le biais ou la précision, mais sur la transparence, la réversibilité, la justification publique et le contrôle démocratique. Alors oui, les systèmes d'IA et les institutions bureaucratiques partagent bien des traits structurels, mais reconnaître ces parallèles n'est qu'un point de départ. Le véritable enjeu consiste à garantir que les décisions produites par ces systèmes ne soient pas seulement cohérentes ou efficaces sur le plan plus procédural, mais juste sur le fond et attentif aux besoins des personnes concernées. Cela exige plus que des ajustements techniques, cela exige un débat public, une surveillance institutionnelle et une volonté publique. Car au fond, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la manière dont les décisions sont prises, mais les valeurs qu'elles traduisent, les intérêts qu'elles servent et la possibilité de les contester quand elles échouent. Et cela, ce ne sont pas des questions techniques, ce sont plutôt des questions politiques. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.